Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 11 avril 2024, c'est notre bulletin numéro 181 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de regarder cette vidéo, allez voir en description comment vous pouvez nous aider. N'hésitez pas à vous procurer Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, la suite de Ukraine, pourquoi la France s'est trompée, et le livre noir de la gauche française, The Book Edition, donc qui est notre imprimeur. À vous abonner à Géopolitique Profonde, bien entendu, donc notre partenaire avec Frank Pengam qui nous a rendu visite, souvenez-vous, pour les élections russes comme observateur. Et puis je me suis remis à lire, donc bien à chaque fois je vais essayer de vous présenter un livre que j'ai lu. J'ai beaucoup de retard, donc je vous prie de m'en excuser tous ceux qui m'ont envoyé des livres, mais je vais tous les lire. Voilà, le premier livre qui m'a beaucoup plu, c'est L'immaturité permanente. Donc c'est édité chez Contre-Culture, c'est de Thomas Boussion et ça donne une clé de compréhension notamment sur précisément l'immaturité de nos élites, hein. C'est quelque chose qu'on a souvent critiqué, qui est non seulement un fait de société, mais qui en plus qui est quelque chose qui est requis maintenant pour diriger nos pays, c'est-à-dire des gens qui sont toujours au stade de l'enfance, et on le voit notamment dans le conflit actuellement ukrainien, c'est-à-dire le refus de la réalité, c'est-à-dire que le monde rêvé l'emporte sur le monde réel.
Nous ne pouvons laisser la Russie gagner.
Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner.
La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre.
Et on voit ça très bien, bien sûr, chez des commentateurs comme Xavier Tittleman, par exemple, qui est typique. En plus, on voit l'influence également des jeux vidéo, donc des gens qui vivent dans un univers parallèle. Mais on le voit également dans cette hystérie qu'on trouve sur les plateaux de télé. Et finalement, on est passé du stade de la, qui avait été très bien analysé par Soral à l'époque, de la féminisation, en fait, féminisation des élites, c'est-à-dire le remplacement de l'analyse rationnelle par l'émotionnel. Et là, on a encore franchi une étape où on est vraiment dans l'immaturité, le refus, en fait, d'accepter les difficultés du réel, d'accepter l'échec et de s'en remettre. Donc, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis j'aime beaucoup la couverture, là, avec tous ces... tous ces gens en trottinette, quel que soit leur âge, c'est tellement bien vu. Voilà, donc je vous le recommande encore une fois, le livre de Thomas Boussion, L'immaturité permanente. Mais passons maintenant aux nouvelles économiques et je remercie Olivier qui m'a passé cette information. La Banque mondiale a produit ces chiffres donc pour le classement des économies mondiales, donc en parité de pouvoir d'achat, le PIB en parité de pouvoir d'achat, qui est la manière la plus sérieuse évidemment d'évaluer les économies, c'est pas parce que vous achetez l'essence en France trois fois plus cher qu'en Russie que la France est trois fois plus riche. En gros, c'est ça, la parité de pouvoir d'achat. Donc c'est vraiment, ça montre la puissance, la capacité de production d'un pays. Et donc, comme ça, on l'avait dit qu'en 2023, la Russie a dépassé l'Allemagne et donc est dans le top 5, à la cinquième position, derrière la Chine, qui est maintenant a pris une distance quasiment irrattrapable devant les États-Unis, devant l'Inde, qui continue à progresser, et devant le Japon. Et ce qu'on apprend également avec la Banque mondiale, et ça, Vladimir Poutine en avait parlé, c'est qu'a priori, en 2024, la Russie pourrait passer devant le Japon et devenir la quatrième économie mondiale. Donc, première économie européenne, quatrième économie mondiale, après 2 ans de guerre contre l'OTAN, c'est plutôt pas mal. On en parle maintenant quasiment à chaque fois, mais dans la presse économique américaine, c'est quelque chose c'est un sujet très présent, forcément, c'est l'énergie. Donc, le pétrole, et on apprend que le cap, donc, de $60 le baril, donc, qui est mis sur le pétrole Oural russe, eh bien, a complètement échoué puisque la Russie continue à vendre à ses bons clients son pétrole à $75. Intéressant aussi, on en avait parlé la dernière fois, mais Lloyd Austin, donc le secrétaire à la défense américain, a déclaré qu'il s'opposait, qu'il était contre les bombardements des raffineries russes. Donc j'avais expliqué pourquoi. Ça crée un manque sur le marché, donc ça fait monter les prix. Et évidemment, la veille des élections aux États-Unis, les Américains, le prix de l'essence, c'est ce qui les fait voter pour ou contre un candidat.
Il est certain que ces attaques pourraient avoir des répercussions sur la situation énergétique mondiale. Alors très franchement, je pense que l'Ukraine serait mieux avisée de s'attaquer à des cibles tactiques et opérationnelles qui peuvent directement influencer le front.
Donc ça, évidemment, tout le monde ne l'a pas compris. C'est le cas notamment de notre gamelin de la semaine, Dourakovlev, que tout le monde connaît, donc qui est intervenu, et qui, lui, n'a pas compris en fait ce que c'est que le marché, notamment le marché des hydrocarbures et des carburants.
Donc ce que j'en retiens, Un, il a, de mon point de vue, il a tort. Ce sont des objectifs militaires légitimes qui font mal à l'effort de guerre russe. Et donc, les Ukrainiens, de leur point de vue, ont raison de continuer.
Je disais, les frappes ukrainiennes ont fait perdre à la Russie 14 à 15% de sa capacité à raffiner le pétrole.
C'est plus compliqué à gérer le front. Et puis deux, je pense que s'ils passent ce message, c'est parce que quelque part, ça fait mal aux Russes et qu'ils leur ont fait savoir. Et ça, c'est un bon signe pour les Ukrainiens.
Voilà, donc il faut bien noter que depuis 2 semaines, j'ai pas noté d'attaque sur des installations de raffinage russes. Et encore une fois, normalement, d'après ce qui a été annoncé par les responsables russes, en avril, début mai, les dommages auront été réparés. Économie toujours, et on revient sur les sanctions contre la Russie et le vol potentiel des actifs russes par les Occidentaux. Et une fois de plus, c'est le New York Times qui produit un article en disant que c'est pas une bonne idée. Donc c'était dans le New York Times également que Bruno Le Maire avait dit que c'était pas une bonne idée non plus, parce que évidemment ça rendra la dette des pays qui voleront ces actifs très peu attirante. Donc voilà, c'est ce que dit une fois de plus le New York Times, c'est ce que nous on a analysé depuis le début. À mon avis, ce que Washington et Londres vont essayer de faire, c'est de faire en sorte, avec tous leurs relais, leurs réseaux, notamment la gauche bourgeoise française autour de Glucksmann, par exemple, de faire en sorte que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, prennent cette mesure. Et comme ça, les investisseurs délaisseront les obligations françaises ou même allemandes pour aller vers des obligations anglaises ou américaines. À suivre donc, ça va nous révéler à quel point les institutions européennes peuvent aller contre l'intérêt des nations et à quel point on a à l'intérieur de notre pays, donc avec la gauche bourgeoise représentée soit par Glucksmann, soit par Emmanuel Macron, eh bien des gens qui sont prêts à agir contre l'intérêt de la France, évidemment. Sanctions toujours, cette fois on apprend la levée des sanctions contre appelé faussement oligarque russe, il n'y a plus d'oligarque en Russie, les gens même milliardaires n'ont aucun pouvoir en Russie, le pouvoir il est détenu par le politique, et le politique il est élu, et bien élu comme on l'a vu avec Vladimir Poutine. Donc pour être plus précis, un milliardaire russe, plutôt israélo-russe, a été retiré de la liste des sanctions puisqu'il l'a emporté devant le tribunal de l'Europe. Donc d'ailleurs je remercie Odile pour m'avoir envoyé cette coupure de presse. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'article est pas trop mal fait et on rappelle que eh bien Friedman faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque la semi-bankirchina, donc les 7 banquiers, ça faisait allusion à la période des temps troubles de l'histoire russe, les semi-boyarchina, bon je vais pas rentrer dans le détail. Mais donc en fait effectivement, les 7 banquiers qui avaient choisi Vladimir Poutine à la place de Yeltsin, en pensant qu'il serait aussi facilement manipulable et utilisable, et grand mal leur avait pris. Alors bon, ils font une petite erreur dans l'article, Berezovsky n'était pas considéré comme un des 7 banquiers, c'était lui l'éminence grise, mais il n'était pas un banquier. Berezovsky, lui, il privatisait les profits, il s'emparait pas des actifs, il avait une technique un peu différente. Mais effectivement, il y avait donc ces 7 banquiers. Pour la petite histoire, beaucoup ont compris assez rapidement, c'est dans mon premier livre, La Nouvelle Grande Russie, beaucoup ont compris qu'il fallait pas s'en prendre à Vladimir Poutine, qu'il était plus fort, plus intelligent qu'eux, en fait. Et donc, vous avez des gens comme Friedman qui n'ont jamais eu de problème avec le gouvernement russe, Potanin également qui en faisait partie, et puis vous avez les gros malins comme Khodorkovsky qui ont fait il y a 10 ans de prison et qui sont en exil. Et donc, cette levée de sanctions nous rappelle aussi la grande erreur, une des grandes erreurs des Occidentaux, ça a été de sanctionner tous les Russes, quels qu'ils soient, même ceux qui n'avaient pas de contact particulier avec Vladimir Poutine, même ceux qui étaient opposés à Vladimir Poutine, tout simplement parce qu'ils étaient russes. Et ça, ça a montré finalement eh bien, que Vladimir Poutine avait raison et que c'était bien une agression directe contre la Russie. Alors c'est peut-être le début du démontage de ce processus qui avait été fait, rappelons-le encore une fois, on avait appelé ça le syndrome Paul Ier. Hein, Paul Ier s'entendait bien avec Napoléon et il s'est fait assassiner par les boyards qui eux voulaient continuer à faire des affaires avec l'Angleterre. Et puis la petite histoire, alors c'est faux, hein, j'ai vérifié historiquement, j'en avais déjà parlé, c'était que l'ambassadeur d'Angleterre attendait à côté dans la pièce d'à côté où on assassinait l'empereur Paul Ier. Même si cette histoire est fausse, j'ai appelé ça le syndrome Paul Ier parce que c'est sans doute ce qu'espéraient les Occidentaux qui ont largement surestimé le pouvoir des milliardaires, pensant qu'ils étaient encore des oligarques et en se disant si on les sanctionne, ils vont faire tomber Vladimir Poutine. Personne ne peut faire tomber Vladimir Poutine en Russie, à part le peuple russe, et c'est quand même très mal parti. Dernière nouvelle qui est économique et technologique, eh bien c'est la réussite du lancement, après 2 reports, du lanceur lourd russe Angara A5. Le lancement d'Angara est important puisque c'est le premier lanceur entièrement développé après l'effondrement de l'URSS. Donc c'est quelque chose de, on va dire, 100% russe et plus du tout soviétique. Ensuite, il a été lancé à partir du cosmodrome de Vostochny. Donc là aussi, c'est quelque chose d'important puisque la Russie ne dépend plus du Kazakhstan. La version qui a été lancée aujourd'hui peut soulever une charge de 24,5 tonnes et à terme, Angara pourra mettre en orbite jusqu'à 37 tonnes. Politico-diplomatique maintenant, et la grande nouvelle diplomatique, eh bien c'est la rencontre à Pékin du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et de son homologue Wang Yi, donc qui ont démontré par leur bonne entente et la bonne entente de leurs deux pays que la Chine et la Russie étaient partis pour approfondir leur partenariat dans le domaine de la sécurité, dans le domaine économique, dans le domaine militaire. Donc ça marque le grand échec de Washington vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de la Chine. C'est quelque chose que j'ai décrit dans mon livre notamment, c'est-à-dire qu'une fois de plus, ils ont pris leurs désirs pour des réalités, de la même manière que dans Mein Kampf, en fait, Hitler était persuadé que l'Angleterre serait son allié, il était très anglophile, il avait deux races supérieures, c'était les Germains et les Anglo-Saxons. Eh bien, là, c'est pareil, à l'inverse, les Occidentaux étaient persuadé que la Chine choisirait l'Occident plutôt que la Russie, eh bien, c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, la visite de Lavrov à Wang Yi vise à préparer la visite de Vladimir Poutine en Chine prochainement. Voilà, en tout cas, tout ça aussi, c'est analysé dans l'Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. La Slovaquie a élu un président pro-russe, et oui, décidément, tout va de mal en pis pour l'Occident collectif. Alors, politiquement, ça va pas vraiment changer les choses, puisque le Premier ministre Fico, donc, puisque c'est pas un régime présidentiel, c'est un régime plutôt, disons, gouvernemental en Slovaquie, eh bien, est déjà pro-russe, et lui a déclaré qu'il ne livrerait pas d'armes, et qu'il ne voulait pas faire la guerre à la Russie, et qu'il fallait trouver une solution négociée. Donc, la Slovaquie est déjà sur de bonnes rails, mais évidemment, l'élection de Pellegrini montre que c'est vraiment les Slovaques qui ont décidé de prendre cette direction, puisqu'il a immédiatement été accusé, comme il est pour la paix en fait, eh bien on l'a accusé d'être pro-russe. Cette assimilation est assez intéressante. Voilà, bonne nouvelle pour la Slovaquie, et puis pour la Russie, et puis pour nous, pour les Européens. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le système qui était mis en place pour neutraliser des pays comme la France, l'Allemagne ou l'Italie par des nano-États baltes, par exemple, puisqu'ils ont, du point de vue du vote, autant de poids que la France et l'Allemagne, alors que, je sais pas, l'Estonie, c'est 1 300 000 habitants, eh bien là, se retourne contre l'oligarchie, la bureaucratie de la Commission européenne, des institutions européennes, puisque des petits pays, voilà, comme la Hongrie, comme la Slovaquie, qui ont moins de 10 millions d'habitants, je crois, eh bien, arrivent à peser par le fait que leur vote vaut autant que celui de la France ou de l'Allemagne. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour nous aussi. Bravo aux Slovaques, suivons leur exemple. Conférence de paix en Suisse, donc organisée par la Suisse, qui avait été demandée à l'initiative donc du président ukrainien Zelensky, et où la Russie n'est pas invitée. Et d'ailleurs, la Russie, de toute manière, a répété à plusieurs reprises qu'elle ne reconnaissait plus la Suisse comme un pays neutre, et que donc il est hors de question qu'elle se rende à une conférence de paix en Suisse. En tout cas, pour l'instant, on en est là, et évidemment, on voit davantage des pays comme la Turquie, pourquoi pas la Chine, comme l'Afrique. Souvenez-vous de cette initiative de l'Organisation des États africains. Donc, d'ailleurs, Vladimir Poutine les avait reçus au Forum économique de Saint-Pétersbourg en juin 2023. Donc, il y a des tas de pays qui sont bien plus légitimes pour accueillir des négociations. Tant pis pour la Suisse. Et d'ailleurs, nous avons tourné la semaine dernière un programme sur la Suisse, voilà, avec invité guillemettant, voilà, pour les l'échiquier mondial, où on parle de ce problème de neutralité suisse. Donc évidemment, cette conférence ne sert absolument à rien. Alors même si Zelensky d'ailleurs a un peu adouci le ton, puisqu'il a dit que non, la Russie ne pouvait pas être invitée, mais qu'une fois que la solution trouvée dans cette conférence serait validée par tout le monde, eh bien, dans ce cas, on pourrait inviter la Russie. Bon, enfin, on est une fois de plus, immaturité permanente. Ce pauvre Zelensky est complètement à côté de la réalité. À côté de ça, Zelensky a donné une interview dans le journal allemand Bild. Alors, c'est une interview orale, elle n'a pas été transcrite. Quelques points intéressants, puisqu'il a annoncé qu'il préparait une nouvelle contre-offensive, celle de 2023 ayant échoué. Donc ça, évidemment, ça a été interprété par tous les analystes comme une volonté de convaincre le Congrès américain qui doit de nouveau peut-être se prononcer sur les 60 milliards de dollars que réclame Zelensky. On verra ce que ça va donner. Je pense que le mois d'avril sera un mois clé. Et donc pour montrer que, eh bien oui, il a besoin de cet argent pour faire une contre-offensive. C'est pas juste pour faire durer le plaisir. Honnêtement, il n'a pas été très convaincant, donc il réclame également des armes, des systèmes anti-aériens, etc., etc. C'est du Zelensky tout craché, d'où notre vignette. Zelensky repart à l'attaque. Empire du mensonge. Alors, on travaille maintenant sur Stratpol sur les techniques de mensonge. Vous vous souvenez, en fait, hein, ces articles cités en bas de page qui disent, qui n'ont rien à voir avec l'affirmation de l'article ou qui disent même exactement le contraire. On en avait parlé la dernière fois, encore une fois, avec l'Institut Montaigne. Et là, je remercie Eric de nous avoir fait passer cette information. C'est aussi une autre technique. Donc là, c'est la Société de Presse, une des trois grandes agences, hein, Reuters, Associated Press et Agence France Presse, eh bien, qui publie un article qui dit exactement le contraire du titre, puisque dans le titre, on dit que, en gros, que l'ONU accuse la Russie d'avoir bombardé la centrale nucléaire d'Energodar, et en fait, dans l'article, en fait, c'est exactement l'inverse, c'est l'Ukraine qui est accusée. Voilà, donc intéressant toujours, hein, comprendre comment ces gens-là mentent. Et ça me permet de faire ma transition directement avec le terrorisme et effectivement le bombardement massif par des drones ukrainiens de la centrale nucléaire d'Energodar. Alors ça, bon, il faut voir les choses de manière globale. Encore une fois, on est rentré vraiment dans une phase terroriste qui ne se terminera qu'avec la fin du conflit. Puisque plus Kiev va perdre sur le champ de bataille, plus ils vont tenter tout et n'importe quoi, pour qu'on parle du conflit ukrainien, puisque ça commence, comme on dit un peu familièrement, à saouler tout le monde en Occident, en Europe. Donc effectivement, pour qu'on en parle, eh bien, il faut faire des attentats, il faut bombarder des centrales nucléaires. Donc voilà où on en est, rien d'étonnant. D'après la IEA, et donc le directeur Grossi, qui avait donné une interview assez intéressante sur RT en français d'ailleurs, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de danger nucléaire. Côté russe, on est quand même plutôt inquiet, d'ailleurs, comme l'a dit le porte-parole de la centrale nucléaire, en fait, d'Energodar. D'après ce que j'ai lu, il y a eu des blessés ou même des morts, plusieurs, voilà, suite à ces bombardements. Rappelons encore une fois que de son côté, la Russie n'a jamais bombardé aucune des centrales nucléaires ukrainiennes qu'elle ne contrôle pas, ou pas encore. Terrorisme toujours, le comité d'enquête, le parquet russe, a lancé un mandat d'arrêt international contre les dirigeants de Burisma. Alors ça, j'en parle également dans mon livre « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée ». Donc Burisma, ça fait partie du Biden Gate. Moins de deux mois après le Maïdan, eh bien, Burisma a pris dans son conseil d'administration, c'est une société d'hydrocarbures, Hunter Biden, le fils du vice-président de l'époque, hein, puisque Joe Biden est vice-président à l'époque de Maïdan, et c'était pas le seul. Il y a également un ancien collaborateur de la CIA, un ancien président polonais, donc que du bon monde, pour faire une affaire de blanchiment avec la justice londonienne. Pourquoi est-ce que donc les Russes ont décidé de lancer une investigation poussée et un mandat de recherche international sur Zlochevsky, le patron de Burisma? Parce que au fur et à mesure que les Russes déroulent la plot de l'attentat du Krokus City Hall, eh bien, ils découvrent les systèmes de financement. Et a priori, Burisma serait impliqué là-dedans. Donc évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour la famille Biden. Bien sûr, l'administration de Joe Biden a immédiatement démenti, mais on verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est quelque chose de tout à fait possible. Armement maintenant. Donc il n'y a pas que Zelensky qui veut des patriotes, hein, des systèmes de protection contre les missiles russes, contre les avions russes qui dominent le ciel et qui utilisent d'ailleurs largement cette possibilité pour envoyer les fameuses bombes planantes jusqu'à 3 tonnes maintenant, ces bombes. Et donc il faut des missiles patriotes. Alors le problème, c'est que ça coûte très cher. Je crois que les batteries coûtent plusieurs milliards de dollars, chaque tir coûte 1 ou 2 millions de dollars, d'après ce que disait le colonel McGregor. Donc ça coûte très cher et il y en a plus beaucoup. Alors c'est pas ce que pense en tout cas Zelensky, on l'a vu, ni son ministre des Affaires étrangères, alors qu'il a fait une déclaration un peu incongrue, en disant que comme on lui donnait pas des patriotes, désormais il allait plus le demander gentiment et diplomatiquement, mais le demander méchamment. Bon, Je vois pas trop ce que ça va changer, ce qui va menacer d'arrêter de respirer si jamais on lui donne pas. C'est bizarre. Mais cela dit, encore une fois, chez les élites ukrainiennes en ce moment, le moral n'est pas très haut, donc tout le monde se met à raconter un peu n'importe quoi. Et de manière assez hystérique, il faut bien le dire. Donc il y a un vrai problème, effectivement, de défense anti-aérienne ukrainienne. D'ailleurs, on a vu là, notamment sur l'offensive sur Tchassofyar, dont on parlera sur la carte militaire, on a vu des Sukhoi-25 qui survolent librement le champ de bataille sans être menacés, même pas par une arme portative. Donc ça m'a un peu étonné. Enfin, ce qui est clair, c'est que, évidemment, les Russes dominent le ciel. Kiev et ses alliés aimeraient bien trouver une solution. Et dans ce cadre-là, il y a une information assez intéressante qui a été reprise par Joker DPR. En fait, ce sont des hackers de la République populaire de Donetsk. Donc ces fuites ont montré des contacts entre l'attaché militaire ouzbek et une société qui s'appelle Universum Technologies, qui est visiblement chargée par le ministère de la Défense américain de trouver des systèmes soviétiques. Hein, encore une fois, ce sont les systèmes les plus efficaces. Les Ukrainiens les maîtrisent, ça on l'a dit depuis le début. Et donc, ils cherchent évidemment des systèmes anti-aériens et également des lance-roquettes multiples de type soviétique. Donc, il y a eu ces contacts qui ont été pris. Alors, pour l'instant, a priori, l'Ouzbékistan n'a pas donné suite. Mais c'est intéressant. Ça montre aussi l'inquiétude, en fait. Hein, ça date de la fin de l'année dernière. Je crois que c'était octobre-novembre 2023. Donc, c'est vraiment la recherche à tout prix, trouver du matériel pour pouvoir le livrer à Kiev pour qu'il puisse continuer la guerre le plus longtemps possible. Bien sûr, impossible de la gagner, mais au moins essayer de la faire continuer le plus longtemps possible en espérant affaiblir la Russie. Considération militaire générale, et l'on revient sur cette tentative de pénétration sur le territoire russe, donc dans la frontière nord-ukrainienne, frontière sud-russe, au moment des élections, pour essayer de saboter les élections à partir de la région de Kharkov ou de Soumy essentiellement, donc qui avait complètement échoué. Et là, on a eu d'autres informations, et notamment une information visuelle, c'est que les Kieviens ont même déployé des hélicoptères Black Hawk, donc qui leur a été fourni vraisemblablement par Washington, ce qui veut dire que des gros moyens avaient été mis en place et que c'était pas du tout une initiative kievienne, c'est quelque chose qui a été coordonné avec Washington, avec Londres vraisemblablement, pour essayer, et encore une fois, de déstabiliser l'élection présidentielle russe. Donc, gros moyens mis en œuvre, grosse coordination au niveau de l'OTAN, et échec d'autant plus grand. On parle de Kharkov maintenant, donc avec les bombardements dans la profondeur russe sur les systèmes d'approvisionnement électrique, en fait la ville de Kharkov est quasiment totalement privée d'électricité, donc ça va mettre extrêmement longtemps à réparer. En plus, a priori, les Russes ont moyen de redétruire ce qui aurait été réparé. Donc, évidemment, mauvaise nouvelle pour les habitants de Kharkov, dont beaucoup ont commencé à partir. Alors, le maire de Kharkov, donc Terekhov, j'en parle dans mon livre, donc qui lui en fait était un pseudo pro-russe, finalement on le voit, eh bien sert parfaitement le régime otano-kievien. Lui appelle la population à ne pas partir. Mais évidemment, il est pas trop écouté parce que effectivement, la vie devient très difficile pour les habitants. Pour les Russes, c'est un moyen vraisemblablement aussi de faire partir la population avant de donner l'assaut pour éviter qu'elle soit prise sous le feu des canons russes, puisque visiblement, malheureusement, il n'y a pas que dans le Donbass que les otano-kieviens vont se barricader dans les villes, mais également au moins dans les villes de la Nouvelle-Russie, et peut-être vraisemblablement, si la Russie doit avancer plus loin, dans toutes les villes, sauf peut-être celle de l'ouest de l'Ukraine, puisque évidemment l'idéologie bandériste vient de là, donc je pense pas qu'ils détruisent leur propre ville. Ça dérange absolument pas les Galiciens de détruire les villes du Donbass ou de la Nouvelle-Russie, mais en revanche, effectivement, les leurs, ça leur pose peut-être un petit problème. Donc, ce qui est intéressant aussi sur Kharkov, c'est cette interview d'un certain Sergei Tichenko, donc qui est un officier supérieur de Azov, donc le groupe bandériste, et qui dit que de toute manière, si les Russes lancent l'offensive sur Kharkov, il faut évacuer la population parce qu'ils vont donner des renseignements aux Russes.
Si le front s'approche de la ville à distance de 15 km, à cette distance artillerie obstrue, необхідно відселяти примусово все місто. І всі військові, які розуміють, про що я кажу, знають,
Тому що місцеві – це комунікація з противником і виявлення якихось цілей.
Et on a vu exactement la même chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était sur le média pourtant russophobe américain qui s'appelait Vice, c'était juste avant l'opération militaire spéciale, où on interviewait cette fois je ne sais plus si c'était un Azovtsé, sans doute, en tout cas un bandériste qui disait la même chose, disait de toute manière, les habitants du Donbass, ils informent les Russes de nos positions. Donc de temps en temps, en fait, au milieu de cet océan de mensonges, de cet empire du mensonge, il y a la réalité qui surgit, et là, elle surgit dans la bouche de ce fanatique qui confirme que, déjà, Kharkov est une ville russe, que ses habitants sont russes, et que donc, Azov et toute la clique qui y viennent, ce sont des troupes d'occupation. Voilà. Mais rassurons-nous, l'armée russe finira par libérer Kharkov, comme à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un élément qui m'a paru intéressant, toujours dans les considérations militaires générales, c'est les nouvelles tactiques d'attaque russe. Et donc, c'est la tactique de la colonne mécanisée. Et vous voyez qu'ils l'emploient sur toute la ligne de front pour avancer. C'est-à-dire qu'il y a, les Russes ont la supériorité de puissance de feu, donc soit par l'artillerie, soit par les bombes planantes. Mais le problème, c'est que même une fois que les positions adverses ont été ravagées, il faut pouvoir les atteindre et les occuper. Et ça pose un problème parce que même une fois que encore une fois, ces positions ont été détruites, eh bien, il y a tout un espace à traverser et qui est pollué par les drones OTANO qui viennent. Et donc, en plus, à côté de ça, le terrain est miné. Donc, se déployer en ligne pour monter à l'assaut, c'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager. Et donc, les Russes ont trouvé cette solution de monter par des colonnes blindées. Donc, le but, c'est de foncer à toute vitesse jusqu'à la position à occuper. Là, les véhicules de combat d'infanterie débarquent leur personnel et la colonne blindée revient. Alors ça marche assez régulièrement, ça a marché à Tchassofia, ça a marché à pas mal d'occasions. Quelquefois ça échoue, notamment sur le front autour de Ternoé, ça a échoué. Mais cela dit, pour l'instant, c'est la seule véritable solution. Et cette nécessité de rapidité a même abouti au fait que, on va le voir sur la carte militaire, sur le front de Seversk, il y a quelques éléments d'infanterie russe ont donné l'assaut à moto. Donc on traversait le découvert à moto, évitant les mines évidemment, pour réussir à s'emparer de la position. Donc là, effectivement, la nouvelle donne des drones, du minage extrêmement dense, oblige à trouver des solutions. Et ça montre aussi ce qu'on avait analysé sur la prise d'AFDFK, c'est que du côté russe que ça se passe. C'est là qu'on innove, c'est là qu'on donne énormément d'autonomie à l'unité la plus basique, la plus petite, pour trouver des solutions. Et ça, c'est un extrêmement bon signe. Ça montre, encore une fois, la professionnalisation et le fonctionnement de mieux en mieux huilé de l'armée russe, que ce soit au niveau de la coordination entre armées, et même au niveau le plus réduit de la section ou du groupe de combat. Dernière considération militaire, toujours les ressources humaines, et là essentiellement les ressources humaines qui viennent, qui sont les plus problématiques, puisque la loi sur le renforcement de la mobilisation a été adoptée à la quasi-unanimité par la Rada, le Parlement ukrainien. Et on parle même maintenant de mobiliser les femmes, de les forcer à faire leur service militaire sur le modèle israélien, c'est ce que dit le conseiller du ministère de la Défense ukrainien, donc qui s'appelle Madame Oksana Grigorieva, et elle nous explique que ce modèle israélien doit même être suivi au nom de l'égalité des genres. Donc c'est qui est quand même pas mal au niveau de la dialectique. Donc évidemment, cela, quoi qu'il arrive, ne va pas résoudre le problème de ressources humaines de l'armée qui vienne, et surtout, ça force des gens à aller sur la ligne de front qui ne le veulent pas. Comment vous voulez tenir si vous avez à terme sans doute la majorité de l'armée déployée qui ne veut pas combattre, et vous êtes obligé d'avoir derrière des mercenaires polonais, des unités de représailles comme Azov, Kraken, pour les forcer à tenir leur position? C'est tout simplement pas viable. Notons qu'à l'origine, dans cette loi donc de mobilisation, il devait y avoir un aspect de démobilisation, c'est-à-dire qui imposait de démobiliser ceux qui servaient depuis 36 mois. Eh bien, évidemment, cet amendement a été retiré. Donc, le combat de l'OTAN contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien et même jusqu'à la dernière Ukrainienne est bien parti pour durer. Mais passons maintenant à la carte des opérations militaires. Et nous revoilà sur la carte militaire. Alors, j'en avais pas parlé la dernière fois, donc c'est arrivé il y a un peu plus d'une semaine avant le bulletin 180. Il y a eu un drone ukrainien, donc une espèce d'avion, drone, avion à hélice, qui s'est abattu dans la région de Kazan, à Yelabouga, cet endroit-là. Donc ça a touché ce qu'on appelle un obsujiti. En fait, c'est un dortoir, visiblement, qui était occupé par des ouvriers. Donc bon, techniquement, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. D'après ce que les analystes russes ont trouvé, le moteur est fabriqué en Autriche et d'origine occidentale, ainsi que le système de guidage. Visiblement, il n'y avait pas vraiment de cible précise. Le but, c'était pour Kiev d'impressionner en montrant que, eh bien, ils peuvent tirer à près de 1300 km à l'intérieur du territoire russe. Si Kiev est incapable d'améliorer la précision de ce genre de tir, ça ne restera qu'une opération TikTok, comme souvent avec Kiev d'ailleurs. Revenons à la carte principale. Les Russes, eux aussi, ont bombardé, mais ils ont tapé sur les infrastructures énergétiques, notamment sur une centrale thermique, une des plus grosses de la région, qui se trouve à peu près à cet endroit-là et qui a été visiblement totalement mis hors de service. Donc les Russes continuent à détruire l'ensemble des infrastructures électriques ukrainiennes en dehors des centrales nucléaires, notons-le bien. On l'a dit la semaine dernière, c'est également le cas à Kharkov, et les Russes ont de nouveau bombardé cette localité qui s'appelle Stry et qui est une localité où il y a des très importantes capacités de stockage de gaz sur lesquelles l'Union européenne comptait. Donc visiblement, faut plus trop qu'ils y comptent. Mais passons maintenant sur la ligne de front en elle-même. Alors, première opération qui s'est déroulée ce jeudi. Donc c'était une nouvelle tentative de débarquement. C'est la deuxième, et comme la première, elle a échoué. Donc à cet endroit-là, il s'agissait de débarquer une unité de sabotage. Il y a eu un prisonnier, les autres membres sont morts, le prisonnier a parlé, donc comme d'habitude je ne montre pas les vidéos des prisonniers, mais il a été assez bavard, il a expliqué où il a été entraîné, et sans surprise, c'est en Angleterre. Sinon, dans la région de Kherson, il ne se passe pas grand-chose. Sur Energodar, j'en ai parlé déjà, là effectivement, eh bien les Kieviens bombardent, histoire de faire parler d'eux, toujours un peu, des opérations dangereuses, mais des opérations TikTok, hein, il ne s'agit pas de débarquer des forces sur place. Du côté de Robotino, rien de particulier. Du côté de Staromayorsk, en direction de Velikaya Novoselka, les Russes ont lancé une colonne d'assaut qui aurait réussi à prendre pied du côté d'Urojaï. Mais pour l'instant, je modifie pas la ligne de front, parce que c'est pas très clair. Novomikhailovka, la localité n'est toujours pas prise, Kiev y envoie des renforts. Du côté de Georgievka, la ligne de front n'a pas bougé. Du côté de Krasnogorovka, les Russes ont reculé puis relancé une offensive, donc toujours les combats font rage, c'est en cours. Là où ça a bien avancé, c'est dans la direction d'Avdeyevka, donc les Russes continuent à repousser le front vers l'ouest, donc c'est pas du tout stabilisé, contrairement à ce qu'a raconté Zelensky. Comme on le voit, après s'être emparés de Tonenkie, ils ont largement avancé et sont maintenant aux abords de la localité de Oumanskoye. Et ils contrôlent par le feu cette route-là. Semenovka est quasiment tombée, pas complètement mais quasiment. Berditche aussi, mais il y a encore des combats. Les Russes ont également réussi à avancer dans la direction de Novokalinova et de Keramik, donc ils ont pris pied à cet endroit-là. Le but maintenant, une fois que toute la partie sud sera sous contrôle, eh bien c'est d'avancer sur les hauteurs le long de cette voie ferrée vers Pakrovsk. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette petite punaise ici sur Ocheretino, parce que cette localité-là sera le prochain objectif important sur la route vers Pakrovsk. On continue vers la direction de Bakhmut, ou plutôt de Tchassov-Yar, à cet endroit-là. Donc les Russes continuent leur poussée sur trois axes. Donc l'axe principal, bien sûr, c'est Tchassov-Yar soi-même. Donc les Russes ont pris pied à l'extrémité est de la ville et les contre-attaques qui viennent n'ont rien donné. Et en même temps, ils avancent sur les deux flancs, le flanc nord, donc Bogdanovka, Kalinovka. Bogdanovka a été libéré et les Russes ont pris pied sur Kalinovka. Et c'est important parce qu'ici, on est sur les hauteurs à cet endroit-là. Même chose du côté d'Ivanovskoye. Les Russes sont en train de pousser vers le canal. Hein, cette petite ligne bleue en pointillé, c'est le canal, pour essayer de faire une pince autour de Tchassov-Yar, comme ceci. Les Russes continuent leur poussée autour de Seversk, dont visiblement c'est un des axes d'effort principaux en ce moment. Ils tentent de contrôler les hauteurs et de s'emparer de la localité de Vimka à cet endroit-là, et c'est là où on a vu cet assaut incroyable en moto. Toujours dans l'esprit de contrôle et hauteur, ils se sont approchés de Verkhovnamskoye à cet endroit-là. Donc, a priori, ils sont à la limite de la périphérie est et ils se sont emparés des hauteurs. Ici, alors c'est pas marqué sur cette carte-là, ça s'appelle la Montagne Blanche. Évidemment, c'est un objectif important puisque ces hauteurs-là dominent toute la zone. Voilà. L'effort continue sur Belogorovka, mais pas de modification de la ligne de front. Au nord, dans la direction de Kharkov, il se passe pas grand-chose, sauf que les Russes ont reculé à cause de la contre-offensive otano-kievienne qui a été bien menée, il faut bien le dire. Voilà, je retire la ligne de front de la semaine dernière, voilà où nous en sommes, le jeudi 11 avril 2024. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à vous inscrire dans tous nos réseaux sociaux, abonnez-vous sur Odyssée, cliquez, faites un petit... c'est contrairement à YouTube, c'est pas un petit pouce, c'est une petite flamme, voilà, cliquez dessus, procurez-vous nos livres, abonnez-vous à Géopolitique Profonde, prenez des cours de russe et dotez-vous d'un VPN, voilà, je compte sur vous. En tout cas, les nouvelles sur le front sont bonnes, donc courage, on les aura.